Studio Tamani, voici nos informations en français.
Lundi 12 septembre 2022, il est 8h dans ce studio, même heure dans la région de Kitar. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition matinale de Studio Tamani. Hier, 11 septembre, a été célébrée Journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Au Mali, cette journée intervient à un moment où le phénomène touche presque tout le pays. La ville de Talataï, au nord du pays, s'est vidée de sa population ce week-end après des affrontements entre djihadistes. Le gouvernement de transition demande une contrepartie pour la libération des militaires ivoiriens détenus au Mali. Il l'a fait savoir dans une déclaration lue à la télévision nationale. À l'hôpital Gabriel Touré, la direction confirme qu'il n'est pas possible actuellement de faire plusieurs analyses au sein de la structure. Elle demande aux citoyens plus de patience en attendant de trouver une solution. À la présentation de ce journal, Adama Amadou Haïdara, Gagné Kanté assure la mise en onde. Le 11 septembre est célébré chaque année Journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Au Mali, depuis plus d'une décennie, le pays fait face à une crise multidimensionnelle. Les attaques terroristes ciblent en plus des positions de l'armée malienne, les populations civiles. Malgré les offensives des forces armées maliennes, la situation sécuritaire est restée préoccupante dans le pays. Pour lutter efficacement contre le phénomène, la société civile et les experts en sécurité indiquent des pistes de solidarité. Un reportage de Draman Maïga avec le concours de nos correspondants.
Nous faisons beaucoup de sensibilisation. La situation est très difficile, mais il faut la paix. À Badiangara, nous sommes tous des frères et sœurs.
Ces propos sont de Mme Mega Fatoumata Guindo, secrétaire administrative de la coordination des associations et ONG féminines CAFO de Badiangara. Toujours au centre du pays, notamment à Bankas, la société civile reste active pour appuyer les efforts des forces de l'ordre. Mamadou Guindo, président du conseil local de la jeunesse.
Il faut une bonne collaboration avec les FDS par rapport à l'information et à la gestion des rumeurs. L'insécurité que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire d'une nation.
Au nord du pays, les populations affirment que c'est avec seulement le développement de ces zones touchées que les autorités pourront décimer le terrorisme. Anassa Meïga, secrétaire à la communication de la force G de Gao.
Il faut que les jeunes qui sont aujourd'hui attirés par ces forces du mal soient occupés ailleurs, soient insérés socialement et professionnellement afin de ne plus être tentés par ces groupes terroristes. Il faut vraiment que l'État s'investisse dans le développement au niveau local, au niveau des communautés.
Les autorités sont beaucoup plus dans l'approche de gestion, ce qui rend difficile cette lutte, indique Mme Kadiatou Keïta, analyste sécuritaire.
Il faut adopter une approche de consolidation et de prévention. Il n'y a pas de zone aussi stable que ça. Il y a surtout une expansion de la menace sur toute l'étendue du territoire.
Rappelons que des affrontements entre groupes terroristes ou contre les forces armées continuent de faire des déplacements massifs à travers le pays. Le cas le plus récent sont ceux de Talataï et Tessit dans le cercle d'Ansongo en région de Gao.
À Yoroso, au sud du pays, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Une situation qui intervient après l'attaque qui a visé le camp de garde de la maison et la maison du préfet. Des sources locales, cette attaque est une première dans la ville de Yoroso.
Nous avons pris un acte portant interdiction de circulation des engins des roues bicycles ainsi que les véhicules de 22h à 5h du matin, excepté les véhicules des forces de défense et de sécurité ainsi que les ambulances. Ce que nous demandons surtout à la population, c'est de leur collaboration. Ensuite aussi, je leur suggère aussi de ne pas céder à la panique et aussi d'éviter tout amalgame.
Toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays, le village de Talataï s'est complètement vidé de ses habitants suite aux violents combats entre les groupes djihadistes Al-Nusra, MSA et Jenin. C'est du moins ce qu'affirment des élus locaux. Ils précisent qu'après des heures d'affrontement, le village est tombé entre les mains des hommes du Jenin qui ont tout détruit. Sur place, des centaines de familles migrent vers des endroits plus sûrs, notamment la ville de Gao. Farak Aga Fakana est le maire de la commune de Talataï, il est joint ici par Ali Sissé.
Après avoir occupé la ville au milieu de la nuit, quelques civils trouvés sur place, parmi lesquels des vieillards, des handicapés physiques, ont été tués. Par contre, les femmes ont été épargnées. Au moment où je vous parle, le village est vide de ses habitants. Ils s'en sont pris aux bâtiments officiels, aux bâtiments privés. Ils ont détruit les bâtiments avec les obus. Ils ont brûlé les marchés, les céréales, les vivres, détruit les châteaux d'eau et finalement tout est réduit en cendres. À partir des 30 km au nord de Talatay, il y a eu au moins 2500 familles regroupées et qui ont commencé à rallier Gao.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'affaire des militaires ivoiriens détenus au Mali continue d'alimenter l'actualité. Les autorités maliennes réclament une contrepartie de la Côte d'Ivoire pour leur libération. Il s'agit de l'extradition de personnalités maliennes vivant en Côte d'Ivoire. Plus de précisions ici avec Kwan Diarra.
Dans une déclaration lue à la télévision nationale, le président de la transition, Assimi Goïta, a dénoncé le comportement de la Côte d'Ivoire. Je cite, « Au moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats, elle continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice. Le Mali reproche aux autorités ivoiriennes de permettre aux personnalités maliennes qui sont sous mandat d'arrêt de bénéficier de leur protection pour déstabiliser le Mali. La partie malienne souhaite trouver une solution durable à l'opposé d'une solution à sens unique. Une approche qui, selon le gouvernement, consisterait à accéder à la demande ivoirienne sans contrepartie pour le Mali, selon le président de la transition. Parmi ces personnalités recherchées par la justice malienne figure Karim Keïta, le fils du président déchu Ibrahim Boubacar Keïta, et l'ancien ministre de la Défense Tiamat Hubert Coulibaly. A noter que les trois femmes parmi les 49 militaires détenus à Bamako ont été libérées le 3 septembre dernier.
La direction de l'hôpital du Point G se prononce après une grève de 48 heures d'une partie de son personnel. Elle dément toutes les revendications et estime que les grévistes n'ont aucune légitimité. C'était dimanche dernier au cours d'un point de presse au sein de l'hôpital. Notre reporter Halima Yattara est allé faire le constat suivant son reportage.
Le directeur général de l'hôpital du Point G estime que le comité syndical en grève ne dispose d'aucune légitimité pour revendiquer quoi que ce soit. Professeur Ilo Beladjal, directeur de l'hôpital Point G.
Nous avons quatre corporations syndicales ici, dûment mandatées. Aucune centrale syndicale, aucun comité local représentant d'une centrale syndicale quelconque, depuis que nous sommes aux affaires en mai 2018, n'a déposé un préavis de grève. Il s'agit toujours du même groupe. Moi, je ne dispose d'aucun document. Je suis certain qu'ils ne pourront vous présenter aucun document leur conférence sur le statut de syndicaliste ou les représentants d'une corporation.
Lors de la rencontre, le syndicat qui s'est dit légitime a abondé dans le même sens que le directeur général. Selon ses responsables, ces actes émanent de la pure politique au sein de l'hôpital. Chaka Sinayago, secrétaire du comité syndical du syndicat national de la santé.
Nous, nous sommes des travailleurs de l'hôpital du Point G. Tant que personne ne nous touche, on nous laisse venir travailler. On n'a pas à nous mêler à cela. L'hôpital, nous avons un plateau technique très performant aujourd'hui qu'on n'en avait pas eu il y a plus de 30 ans ici à l'hôpital du Point G. Aucun personnel de l'hôpital du Point G ne se reconnaît dans ses revendications.
A noter que le mouvement de grève qui a lieu du 8 au 9 septembre dernier a paralysé le fonctionnement de la structure. Selon des usagers, le service minimum était assuré surtout au niveau des urgences.
Pour Dr Guida Landouré, secrétaire général adjoint du comité syndical du CHU du Point G, les réclamations sont relatives à l'amélioration du plateau technique, la lutte contre l'insalubrité et un meilleur cadre de vie pour le personnel. Les responsables syndicaux entendent mener une autre grève de 5 jours si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Restons toujours dans le cadre sanitaire à l'hôpital Gabriel Touré. Les responsables reconnaissent que le plateau technique est défaillant. Selon eux, cette panne a été causée par la foudre durant les pluies du mois de juillet dernier. Cependant, ils assurent qu'ils sont à pied d'œuvre pour trouver une solution rapide. Dr Abdoulaye Sanogo est le directeur de l'hôpital Gabriel Touré. Il est au micro de Halima Yattara.
Les machines qui sont en panne et en cause, c'est essentiellement le scanner qui est très sollicité au sein de Gabriel Touré. Comme vous savez, Gabriel Touré, c'est l'hôpital d'urgence par excellence. On reçoit plus de 70% des blessés du district, avec des gens venant des régions. Actuellement, la prise en charge de ces cas-là nécessite pour la plupart l'examen du scanner. Ce qui fait que si le scanner est arrêté pendant un moment, tout le monde va sentir. Le service de formation même des gastro-entérologues, leur principal instrument de travail, c'est le fibroscope. Le fibroscope est endommagé, également en arrêt, donc cela fait des grincements dedans. Des contrats ont été établis pour la réparation. Il ne s'agit pas que de simples machines, ce sont des technologies importées. Ce n'est pas une réparation sur place. Dans les prochains jours, cette question de panne ne serait qu'un oubli. J'invite tous les Maliens à beaucoup plus de compréhension. Nous sommes là pour un service public.
Direction à présent le nord du pays où la connexion Internet est un casse-tête pour les populations dans Songo. La connexion aux deux réseaux de téléphonie mobile est lente et presque inexistante. Pour se connecter à Internet, les habitants de la ville dans Songo se débrouillent avec des astuces souvent. Dans Songo, le récit de notre correspondant Issouf Moussa Touré.
1000 francs CFA l'heure, c'est le prix à payer pour se connecter à l'Internet en Songo. La connexion à l'Internet étant un besoin quotidien, les usagers payent 700, voire plus chaque jour.
Nous, on veut que diminue là-dedans. 750, c'est bon. 500 par heure, c'est bon. C'est du marketing, quoi. Il faut chercher la clientèle pour avoir beaucoup de bénéfices.
Ah, la carte du Wi-Fi, c'est un peu trop cher. Une heure, c'est 1000 francs. Deux heures, 2000 francs. C'est un peu cher pour nous, les élèves. On veut vraiment connecter sur le Wi-Fi, mais c'est un peu trop cher.
Ce problème de connexion n'est pas sans conséquence sur le travail de certains usagers. Mamadou Maïga est infirmier. Selon lui, l'absence de l'Internet complique beaucoup le travail.
Nous, on a énormément de difficultés parce qu'on a tous les rapports qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est avec la connexion qu'on met nos données dans les logiciels. Donc, s'il n'y a pas de connexion ici, on a énormément de problèmes. Donc, si on peut avoir de bonnes volontés pour faire des choses, pour amener les anciennes installations de la connexion, ça serait mieux.
Des vendeurs de la carte de connexion Wi-Fi justifient cette cherté du méga de connexion par la cherté du méga qu'il paye au Niger, mais également l'insécurité. Neymar Oldouamar, vendeur de Wi-Fi.
Si tu prends un méga, 380 000, ça ne peut pas faire l'affaire. Au moins 2 mégas ou 3 mégas pour que les gens vont se connecter bien. C'est pour cela que les tickets là sont chers, parce qu'on paye les mégas avec une manière très chère. Donc.
Dans Songo, Issou Moussa Touré pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Les échos de nos régions. À Koulikoro, 3 personnes ont été ensevelies sous les décombres d'une maison effondrée ce samedi 10 septembre 2022. Ce sinistre est arrivé à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Koulikoro. L'intervention des agents de la protection civile a permis de sauver les 3 victimes blessées qui ont été admises au centre de santé de référence de la ville pour des soins. Les cimetières de Bazi Haoussa, endommagés par la divagation des animaux, viennent d'être réhabilités par des jeunes du village ce samedi à Ansongo. Ils ont fermé les tombes dégradées par la pluie et ont aussi fermé les trous du mur des cimetières. Ces travaux ont été faits par la coordination des jeunes du village de Bazi Haoussa. Ils ont également construit les cimetières du quartier Tondikoiri. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site web au www.studiotamani.org. Bonne journée à tous. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Cet adage se matérialise de plus en plus au Mali dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ceux qui collectent des bouts de métaux, des boîtes de conserve, des vieux climatiseurs, des chaussures usées, entre autres, dans les maisons ou sur les décharges. Cette activité a des avantages écologiques et permet à beaucoup de gens de gagner leur pain quotidien. Le magazine Parlons de l'environnement est présenté ici par Mariam Koulibaly.
le magazine parlant de l'environnement.
Adama Sagara est un jeune adolescent qui arpente les rues à la recherche des métaux et des chaussures en plastique usées. Il a quitté les bandes depuis plusieurs années, mais Adama arrive à s'en sortir grâce à cette activité.
On se promène un peu partout, de Titibougou jusqu'à Kulukoro. Je fais beaucoup de bénéfices. Nous achetons le kilo d'objets usagés à 50 francs. Les grossistes le rachètent à 125 francs. Je gagne 75 francs sur le kilo. Mais c'est très épuisant.
Cette étape est donc le point de départ. Les objets récupérés sont ensuite acheminés chez des grossistes comme Adama Sangaré. Ces derniers les trient et les expédient vers des usines qui les transforment.
Voilà. Nous les chargeons dans les camions qui les livrent dans les usines. Il y en a une à Tienfala. J'ai entendu dire qu'elle les transforme en fer rond.
Mais le processus est long et périlleux, selon Yaya Touré, un autre grossiste. Il affirme que ses apprentis sont convoqués presque quotidiennement à la police pour les motifs qu'il cite ici.
Nous sommes tout le temps au commissariat. Les jeunes viennent nous vendre des objets, après reviennent avec la police. On se fait enfermer pour rien. On nous traite de receleurs alors qu'on n'en sait rien. Et on ne fait pas souvent la différence. On se blesse en manipulant ces bouts de métaux. Nous portons des gants et faisons souvent des injections contre le tétanos.
À Bamako, d'autres personnes confirment les propos de Yaya Touré. Elles estiment aussi que maintenant, Bamako est moins pollué par ses objets de récupération, contrairement aux années précédentes.
Certains viennent du village uniquement pour ce travail. Le fait de faire ce travail assainit l'environnement et protège les enfants.
Avant, on se blessait beaucoup avec les métaux usagés. Aujourd'hui, on n'en voit plus dans les rues.
Je les félicite beaucoup.
Mais il ne peut pas faire ce travail indéfiniment. Il faudrait essayer de les insérer dans d'autres secteurs.
Ahmed Sekou Diallo, environnementaliste, avoue qu'il n'y a pas eu d'études menées sur ce secteur. Mais il explique que ce mode de recyclage permet de protéger les populations contre les effets nocifs de ces déchets.
C'est que dans le contexte actuel du pays, l'État n'offre pas suffisamment d'opportunités et d'alternatives aux jeunes. Donc, si les jeunes trouvent un palliatif en se trouvant du travail, nous pouvons dire que c'est positif. Mais ça joue aussi sur l'environnement parce que ça nous permet de dégager les rues de ces déchets visionnent des fois les rues. Si c'est bien organisé, c'est parqué quelque part et une entreprise vient acheter pour les recycler. Souvent, c'est exporté parce qu'il y a des entreprises étrangères qui viennent les acheter et aller les recycler dans d'autres pays.
À noter que des grossistes demandent aux autorités de s'intéresser au secteur pour leur garantir plus de sécurité.
Au commissariat, on nous oblige de payer de fortes sommes d'argent pour rembourser la personne qui s'est faite voler. Je propose qu'on nous donne des documents à faire signer par ceux qui viennent nous vendre ces objets pour nous protéger.
Que deviennent ensuite ces métaux usés? Le prochain numéro du magazine Parlons de l'environnement sera consacré à ce thème. Ce numéro a été réalisé et présenté par Mariam Koulibaly. À la semaine prochaine.